Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone de FP. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. Le FP est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétences. Ce soir, nous sommes ensemble pour une conférence sur le thème de l'EFT, chemin de guérison intérieure par l'amour de soi. L'amour constitue un grand mystère de la vie qui fait couler beaucoup d'encre depuis des centaines, que dis-je, des milliers d'années. Il s'agit d'un thème récurrent dans les traditions culturelles, philosophiques ou religieuses de partout dans le monde. Chacun le cherche, le désire, craint de le perdre lorsqu'il l'a trouvé, et c'est souvent la quête de toute une vie. Notre conférencière ce soir a découvert le secret qui permet à la fois de ne jamais souffrir de son absence et en même temps de l'attirer définitivement à soi. Elle va nous parler de son expérience, bien sûr, mais nous donnera aussi les clés qu'elle a collectées en EFT pour activer l'amour dans notre vie. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Vastra. Bienvenue Florence.
Bonsoir Maria, bonsoir également à tous nos auditeurs et bienvenue dans cette conférence sur l'amour de soi et l'EFT. Alors amour de soi, ça peut paraître un peu provocateur, je sais. Qu'est-ce que tu t'es dit toi Maria lorsque tu as vu ce titre ?
Mais qu'effectivement on est beaucoup... plus à la recherche de l'amour de quelqu'un d'autre que de l'amour de nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que je vois dans toutes les personnes que je côtoie.
Oui, tu as absolument raison, Maria. Et c'est vrai que c'est merveilleux que d'aimer et de se sentir aimé. Dans ces moments-là, on a l'impression que la vie est transformée, comme par un coup de baguette magique. Par contre, s'aimer soi-même, ça constitue quand même quelque chose de très, très difficile.
Mais dis-moi Florence, pourquoi serait-il si important de s'aimer soi-même ?
Oui, avant de parler de la difficulté à s'aimer soi-même, voyons avant tout pourquoi et comment ça peut transformer notre vie. Alors je tiens à préciser, Maria, que j'aborde aujourd'hui ce thème parce qu'il m'est très cher et qu'il constitue en quelque sorte le thème central de ma propre vie. Très très longtemps, j'ai cru que c'était mon devoir, d'abord quand j'étais enfant, d'être une enfant sage, puis après, en tant qu'épouse et mère, mon devoir c'était d'aimer les autres. Et j'ai vécu avec cette conviction pendant de très nombreuses années. Et j'ai découvert, il y a quelque temps, qu'il s'agissait en fait d'une croyance, d'un leurre. Tu connais cette expression, Maria, tu sais, mettre la charrue avant les bœufs. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Alors, je l'ai fait avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de désir de bien faire. Mais je me suis aperçue que espérer de donner de l'amour aux autres, ça n'était quasiment pas possible si on n'entretenait avec soi que des relations basées sur le jugement, sur la critique, ou même sur la dureté vis-à-vis de soi-même. Alors, j'ai cherché un petit peu à étayer tout ce que j'avais vécu dans ma vie et tout ce que je ressentais profondément, et j'ai trouvé des choses dans différentes cultures, dans différentes religions. Entre autres, celle-ci, concentrez-vous sur l'amour et appliquez-le à vous-même, le matin, le midi et le soir. Ça, c'est une phrase du Bouddha. Et dans la religion catholique, c'est l'un des 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui, entre nous soit dit, j'ai découvert aussi, fait dire à Paul Valéry que c'est une atroce ironie. Tu vois un peu.
Alors, cette difficulté à s'aimer ne date pas d'aujourd'hui. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre, comme tu disais.
Et tu as raison. C'est vraiment une difficulté de s'aimer et ça nous vient de très, très loin. Alors, déjà, enfant, il y a certains enfants qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas acceptés dès le début. Donc, comment peuvent-ils s'aimer cela, hein ? Ils vont en garder le souvenir dans toutes leurs cellules. Hein. Pour la majorité d'entre nous, c'est vrai qu'on a été aimé quand on était enfant. Hein. C'est même l'amour inconditionnel quand on est tout petit. Nos parents comblent nos besoins, Et tout se passe naturellement, ils s'occupent de nous, ils nous acceptent quand on est tout petit. Mais très vite, on va devoir s'adapter aux attentes extérieures. Alors j'en parlais tout à l'heure pour moi, hein, être un enfant sage, être gentil avec d'autres enfants, ne pas faire trop de bruit, bien travailler à l'école. Moi, il y avait aussi manger à table, je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Enfin, plein de choses qui font le quotidien, hein, et qui nous font penser qu'on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Hein. On apprend qu'il faut être comme ceci ou comme cela pour être aimé. Et on s'adapte. On s'adapte parce qu'un enfant n'a pas d'autre solution. C'est presque une question de survie pour que ses parents continuent à s'occuper de lui. C'est au moins ce que l'enfant croit dans sa tête, quoi. Mais alors, dans cette histoire-là, ce qui est absolument fabuleux, c'est que nous, après, quand on devient adulte, on va continuer à exiger tout cela de nous-mêmes. On prend le relais, en quelque sorte. Et très souvent, on devient des adultes qui pratiquons l'autocritique. On ne se sent pas à la hauteur. On voudrait faire mieux, tout le temps. Ces derniers temps, par exemple, j'entends aussi beaucoup parler de procrastination. Alors ça, c'est une demande récurrente de mes clients. Comment est-ce que je peux faire pour arrêter de procrastiner ? On se plaint, moi ça m'est arrivé aussi, de tout remettre au lendemain, de ne pas faire ce qu'on devrait, de prendre du retard, on se sent coupable. Et en fait, je conseille simplement de chercher quelle est la motivation profonde. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Est-ce que c'est par passion ? Est-ce que c'est parce qu'on en a réellement envie ? Ou alors, est-ce que c'est juste pour faire plaisir à un père ou une mère qui sont peut-être plus là ? Ou qui du moins ne nous demande plus rien aujourd'hui, mais auquel on reste fidèle, une sorte d'attachement inconscient. Et du coup, ça crée une espèce de guerre intérieure, qui est en soi parfaitement inutile et qui est surtout perdue d'avance. Et je pense qu'à ce moment-là, le plus important, c'est d'aller retrouver ce petit enfant en soi. Ce petit enfant qui a été obligé de se taire, qui s'est senti souvent très seul, parfois maltraité, même inconsciemment. Aller chercher cet enfant et lui permettre enfin de s'exprimer, de dire ce qu'il veut, ce qu'il aime, comment il voit la vie, ce qu'il fait rire aussi, ce qui l'amuse, ce qui lui donne envie de bouger, de chanter, de danser, enfin tout ce qu'un enfant aime. Qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple, Maria, quand tu as un enfant qui est un peu blessé devant toi? Comment tu réagis?
Ben, je connais bien cette situation, ça m'arrive régulièrement. Oui. Alors, j'essaye de prendre soin de lui et je le soigne de mieux que je peux, bien sûr.
Bien sûr. Et on est tous comme ça, ça va être la réaction instinctive. Par contre, on ne le fait pas avec nous-mêmes. Nous, on ne mérite pas ça. Qu'est-ce que tu fais aussi avec une amie qui est triste, qui vient te voir, qui est malheureuse? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'aider? Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Je pourrais lui dire que ça serait bien qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle pense à elle, qu'elle se fasse du bien avant tout.
Oui, tout à fait, qu'elle se fasse du bien. Et tu vas peut-être même lui offrir des cadeaux pour qu'elle se sente bien.
Oui, je vais passer du temps avec elle, je vais l'appeler pour savoir comment ça va.
Bien sûr.
Bien sûr.
Alors, ma question est, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec quelqu'un qu'on aime et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec soi-même? Souvent, prendre du temps pour soi, c'est quelque chose de difficile. S'aimer, c'est même parfois inconcevable. Hein. Or, s'aimer, c'est se considérer comme digne d'amour. Alors, si on est capable de donner ce droit-là aux personnes qui sont autour de nous, pourquoi est-ce qu'on se le refuse à nous-mêmes? Un peu comme si s'aimer soi-même risquait de faire de nous des gens orgueilleux, égoïstes, durs avec les autres.
Oui, c'est vrai que le fait de s'aimer soi-même, ça peut faire penser à quelqu'un d'égoïste. Ou ça fait penser aussi à Narcisse qui était ébloui par son image dans l'eau et qui a fini l'histoire à très mal terminer.
Oui, tout à fait. Effectivement, si on arrive à s'aimer soi-même, on se dit qu'on va passer pour quelqu'un de narcissique, comme tu dis, ou d'égocentrique, ou d'autres défauts. Hein. Et surtout, on va se poser cette question, on va se dire, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Cette question, elle est importante parce que c'est à la fois notre propre jugement et la crainte du jugement des autres qui nous bloquent. Alors, tu sais comme moi, Maria, que nous sommes des êtres faits de vibrations. Et ce sont nos émotions qui déterminent ces vibrations. Or, dans le cas présent, si on ne s'aime pas, si on vibre le jugement, si on vibre la critique, si on vibre la culpabilité, il est évident que c'est ce que nous allons attirer dans notre vie. Chaque fois que nous nous dénigrons, en fait, on affaiblit notre aura, notre rayonnement personnel.
Oui, c'est ce dont on parle souvent en rapport avec la loi d'attraction, qui dit que l'on attire à nous ce qui nous correspond au niveau de la vibration. C'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça. Et le fait de nous sentir bien, d'être dans la joie, ça constitue notre raison d'être. On ne peut pas être heureux sans ressentir l'acceptation de soi. Et c'est cette acceptation de nous-mêmes qui va nous permettre d'accepter les autres et de les aimer. C'est une sorte de règle d'or qu'on retrouve, je le disais tout à l'heure, dans toutes les grandes cultures et dans toutes les grandes religions. On a parlé de Bouddha tout à l'heure, Jésus, mais pas seulement. Je l'ai trouvé aussi chez les Toltecs. Chez les Toltecs, ils existaient il y a des milliers d'années dans le sud du Mexique et ils étaient réputés pour être des savants, des artistes. Et Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur des 5 accords Toltecs, nous parle lui aussi de cette nécessité de s'aimer soi-même. Il y a une prière pour l'amour de soi qui est absolument fabuleuse et que je recommande à nos auditeurs. Alors, chez Lise Bourbeau aussi, dans Écoute ton corps, j'ai trouvé la phrase suivante. Plus tu te juges et te rejettes dans ce que tu fais, moins tu te donnes le droit d'être ce que tu es. Plus tu as peur d'être rejeté des autres, plus tu deviens une personne qui s'accroche aux autres. Réalise que si tu te rejettes, c'est que tu te laisses envahir par des croyances mentales que tu as développées. Alors j'ai envie de te proposer un petit test, Maria, pour illustrer tout ça. Tu es d'accord ?
Oui, bien sûr.
Supposons que tu détestes tes oreilles. Alors si je te dis qu'elles sont affreuses, qu'est-ce que tu vas te dire ?
Oui, c'est vrai, tu as raison, mais bon, t'es peut-être pas obligé de me le dire, non ?
Voilà.
T'es là, devant des milliers de personnes, en plus.
Voilà. Bon, tu vas te sentir peut-être blessée.
Oui,
peut-être,
oui, ça me ferait pas plaisir, oui.
Humiliée, enfin bon, bref, voilà. Bon, alors si je te dis, on va changer de tactique, si je te dis, Maria, tes oreilles sont trop belles, qu'est-ce que tu vas penser si tu les aimes pas ?
Bah, t'es folle. Et ça y est, là je la gagne, ses yeux ne fonctionnent plus très bien. Ça, cette oreille-là, elle les trouve belles. Bon, non, elle se moque de moi, vraiment. Elle essaie de me faire plaisir, je le sais, mais bon, faudrait pas mentir quand même.
Voilà. Mmh. Bon, ben, tu te rends bien compte que quoi que je fasse, quoi que je dise par rapport à tes oreilles, ça peut pas être positif.
Non, bien sûr.
Voilà. Donc tu te rends bien compte que c'est pas ce que j'ai dit qui est important, c'est ce que tu ressens. Qui fait que du coup, tu vas pas être bien par rapport à ce thème-là. Alors imaginons au contraire que tu trouves tes oreilles plutôt bien. Donc tu vas te dire, si je te dis que je les aime pas, tu vas te dire, tant pis pour elles. Et si je te dis que tu les aimes, tu te diras, oui, c'est normal parce qu'elles sont pas mal. Et là, mon avis sur la question, de la même façon, enfin à l'inverse, ne te causera pas de désagrément. Donc voilà, c'était juste pour illustrer comment l'amour de soi va influer sur la relation à l'autre, et le non-amour également. Alors, il existe aussi un phénomène de projection, qui est très fort également. Alors, j'ai envie de te raconter une petite histoire qui m'amuse beaucoup. C'est l'histoire d'un psy qui demande à son patient de dessiner un carré, et qui lui dit « Que voyez-vous ? » Alors le patient répond « Une femme nue sur un divan ». Le psy demande, bon, dessinez un second carré autour du premier et dites-moi ce que vous voyez. Une femme nue sur un divan dans une chambre, répond le patient. Bon, refaites encore un carré autour et dites-moi ce que vous voyez, dit le psy. Le patient répond, une femme nue sur un divan dans une chambre, dans une maison. Il commence à être agacé. Alors le psy lui dit, c'est clair, vous êtes obsédé. Et le patient lui répond, bah, pas du tout, c'est vous qui l'êtes. Vous me faites faire des dessins pornographiques depuis tout à l'heure. Voilà. Bon. Alors, j'aime bien cette histoire. Bon, au-delà du fait qu'elle est drôle, hein, c'est juste pour montrer comment chacun est dans sa bulle et comment on projette sur l'autre ses propres croyances. Dans le même ordre d'idées, il y a une histoire qui est connue aussi, c'est les spectateurs qui écrivent aux réalisateurs d'émissions de télévision pour leur reprocher des scènes ou des paroles qui n'ont jamais existé.
Oui, ça c'est vraiment incroyable. Ça montre bien l'importance de la parole et le soin à accorder aussi aux paroles que nous disons.
Oui, tout à fait. Et en fait, ça s'explique parce qu'on est assailli par des milliers d'informations en permanence. Et en fait, il nous faut choisir celles qu'on va retenir et celles qu'on va ignorer. Et cette opération, elle se réalise presque malgré nous, hein, dans l'inconscient. Ou plus exactement, elle se fait en fonction de nos centres d'intérêt et de nos croyances. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à quelque chose de précis, on en observe beaucoup plus que d'habitude. C'est le cas quand on attend, par exemple, la livraison d'une nouvelle voiture. À ce moment-là, on en voit énormément partout, alors qu'on n'en avait jamais vu autant avant. Moi, c'est quelque chose qui m'avait impressionné aussi quand j'attendais mes enfants. À chaque fois, je ne voyais que des femmes enceintes autour de moi, alors que j'en vois pas tant que ça en temps normal.
Oui, c'est vrai. Hein?
Donc, ce qu'on voit autour de nous, ça correspond très exactement à nos propres croyances sur nous-mêmes, sur la vie. Donc, à partir de là, on peut se demander où on en est sur le thème de l'amour, au niveau de l'amour. Regarder notre vie et se dire ce que je vis en matière d'amour, ça correspond à l'amour qui est en moi, à l'amour que j'ai pour moi. Les autres sont le reflet de ce qu'il y a en moi. Alors, est-ce que les autres m'aiment? Est-ce qu'ils me respectent? Ou au contraire, est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens fragile, humiliée? Voilà, c'est des bonnes questions qu'on peut se poser en regardant simplement notre vie. Alors, en étant incapable d'avoir un peu de tendresse ou d'indulgence pour soi, on est incapable d'en avoir pour les autres. Et on le sait bien, quand quelqu'un est malheureux, quand on l'est soi-même, on est souvent méchant avec les autres, on manque de patience ou d'indulgence. Le Dalai Lama, par exemple, nous dit « Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. » Et c'est en soi que se trouve la puissance de l'amour. Alors, je repensais à la dépression. Bon, c'est une maladie que j'ai connue il y a très longtemps. J'ai fait une phase dépressive. C'est une maladie terrible. Et elle présente justement cette particularité de ne pas s'aimer du tout. Et d'être extrêmement exigeant par rapport à soi-même. On se replie sur soi et on ferme son cœur. Et on ne se pardonne pas. Ça, c'est un extrait d'Olivier Chambon, psychiatre. Je crois que ça, c'est quelque chose de terrible, de ne pas pouvoir se pardonner, parce que là, effectivement, on se ferme. Alors, j'ai trouvé aussi une phrase de Jacques Salomé qui nous dit « Dans le manque d'amour pour soi, on est toujours ou dans le demander exigence ou dans le refuser parce que pas assez. » Voilà, c'est les deux cas de figure. Et dans ces deux cas de figure-là, on a une grande difficulté à donner. Lorsqu'on ne s'aime pas, on pense que l'on n'a rien à donner de valable et d'intéressant. Et lorsque l'on donne, on a le sentiment d'être dépossédé, d'avoir un moi. Si je ne m'aime pas, je serai dans le besoin d'être aimé et je vais exiger l'amour de l'autre. Alors, j'aime beaucoup cette dernière phrase parce que elle a fait vraiment résonance en moi. Souvent, je parle j'ai l'image d'un arrosoir, comme si nous, on était un arrosoir et qu'on souhaitait arroser toutes ces belles fleurs qu'on voit qui ont besoin d'eau autour de nous. On a cette volonté de les arroser, mais si on n'a pas d'eau à l'intérieur de l'arrosoir, et ben, ça sert strictement à rien et c'est inutile. Il y a quelques temps, il y a eu la journée de la compassion. Il y a une comédienne philippine, Leroy Beaulieu, qui disait « Faire fleurir son jardin pour que le monde devienne un paradis. » Ah, tu vois bien, Maria, ça c'est pas de l'égoïsme, hein. Au contraire, c'est donner de soi, c'est se nourrir pour pouvoir donner aux autres.
Hein. Oui, tout à fait.
Voilà. Et apprendre, prendre soin de soi, ça nous permet d'accéder au bonheur de prendre soin des autres. Voilà. On connaît des gens qui sont tellement bien dans leur peau qu'ils irradient cette joie de vivre autour d'eux et que tout le monde en profite. Et je me faisais cette réflexion, je regardais l'autre dimanche les 80 ans de Jean-Paul Belmondo, hein, et les commentaires étaient unanimes, les éloges étaient unanimes. Il a une énergie, une joie de vivre, et on est emporté, et il nous rend heureux par la même occasion. Et ça, c'est des choses, enfin, moi, ça me chauffe le cœur, quoi, quand je vois des choses comme ça. Je me dis, voilà, si tous on pouvait irradier ça, je veux dire, le monde serait complètement différent.
Oui, c'est vrai que les personnes très inspirantes respirent cet amour d'abord pour eux, qui laisse ensuite déborder sur les autres.
Tout à fait.
Comme l'image de l'arrosoir, effectivement. Alors, tu nous dis que ce thème de l'amour de soi est une difficulté dans la quasi-totalité des cultures. Est-ce que tu peux nous donner quelques autres exemples ?
Alors oui, il y en a un qui me vient à l'esprit aussi au niveau de l'amour, c'est les expériences qui ont été faites par le docteur Emoto au Japon, et toutes les expériences sur l'eau et l'analyse des cristaux. Hein. Le docteur Emoto est un chercheur japonais, et il a découvert que les cristaux de l'eau congelée varient en fonction des informations qui émanaient de l'environnement. Alors pour expliquer, il y a une de ces expériences qui consistait à mettre de l'eau dans deux flacons séparés. Et sur le premier flacon, il a écrit des mots tels que merci, joie, bonheur, et sur le second, des mots comme tu es fou, guerre, enfin, des choses comme ça. Et après, il a congelé l'eau de chacun des flacons et il s'est aperçu qu'il y avait une différence énorme. D'un côté, il y avait de jolis cristaux avec des formes parfaites, et de l'autre, il n'y avait aucun cristal. Alors, c'est une expérience qui est puissante quand on sait qu'on est constitué de presque 80% d'eau. Donc, Dr Emoto, lui, dit qu'on peut guérir l'être humain avec la force de l'intention, la force de l'amour. Quoi. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une deuxième expérience du Dr Emoto qui était avec du riz cuit. Où il a fait la même chose, il a mis du riz cuit dans un bocal et dans un autre, et envoyé des choses positives au premier bocal et des choses négatives au deuxième bocal, et le riz a pourri dans le bocal qui recevait des choses négatives, il n'a pas pourri dans le... Alors ça c'est une expérience, tentez-la, moi je ne l'ai pas faite, mais je sais que d'autres personnes l'ont tentée, on peut la faire chez soi, et voilà, tentez-la, et envoyez-nous les résultats, c'est assez fabuleux. Il y a d'autres personnes aussi qui ont avancé dans cette voie de l'amour guérison. Le docteur Théodore Lascaux, hein, avec qui j'ai d'ailleurs fait un atelier, dans son livre « Guérir par l'amour », il explique qu'en tant qu'ancien chef de clinique, il a essayé de valider toutes ses expériences de façon scientifique. Et il a vraiment... Bon, je ne vais pas m'étendre ici, hein, mais prouver qu'il y avait des transformations réelles et quantifiables, hein, et que le processus de guérison était encouragé et accéléré par l'amour inconditionnel. Alors, bon, ça c'est une parenthèse, enfin bon, je ne voulais pas m'étendre réellement là-dessus, mais voilà, expliquer que l'amour inconditionnel, c'est... Surtout au-delà de, c'est peut-être guérison, mais c'est surtout une source de bonheur dans notre vie, et que activer le bonheur dans notre vie, ça ne peut qu'apporter des choses positives.
Louise... Oui, mais on peut remarquer au passage que effectivement, si on reste suffisamment dans la critique et dans le dénigrement de soi, ça peut aussi engendrer des états de maladie.
Oui, absolument. Au moins, on le sait déjà au niveau du stress, hein, quand on se sent mal, etc. Bon, ben, il se passe des choses. Alors, je suis pas une scientifique, moi, mais il se passe des choses parfois même au niveau cardiaque. Hein,
oui, bien sûr, au niveau de toutes les cellules.
Au niveau de toutes les cellules, au niveau de l'estomac, au niveau de musculaire, au niveau... Voilà, on retrouve plein de choses. Voilà, et s'envoyer toute la journée des choses négatives dans la tête, parce que c'est dans la tête hein, que ça se passe, c'est vrai qu'il se passe derrière des choses assez terribles, à mon sens. Mais je suis convaincue, et pour l'avoir vécu pour moi, qu'on peut tout à fait inverser la vapeur. Hein. On n'est pas victime de cette petite voix dans notre tête qui nous raconte des choses parfois pas très sympas. Hein. Alors, Louise est, par exemple, elle nous en parle et elle nous dit « Aimez-vous vous-même, vous êtes merveilleux. » De ce principe essentiel découle le bonheur individuel et, de proche en proche, la guérison planétaire. Hein, et voilà, c'est effectivement, on peut faire une immense chaîne d'amour en partant de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Je commence par m'aimer, je suis capable de donner de l'amour, et en donnant de l'amour, voilà. On trouve sur YouTube, j'ai vu une vidéo dans ce sens-là il y a pas longtemps, hein. Ça commençait par un petit enfant qui donnait un pot de peinture à une petite fille, et waouh, ça faisait une chaîne d'amour et de joie, et voilà, c'est fabuleux.
D'accord, donc à travers ces différents exemples, on a très bien compris l'intérêt et l'importance essentielle de s'aimer soi-même. Mais concrètement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment faire concrètement?
Alors c'est vrai que c'est pas facile, ça je te l'accorde, c'est souvent pas un réflexe naturel, hein. Et ça pose vraiment le problème du rapport qu'on a avec nous-mêmes. Alors une première clé que je pourrais offrir ce soir et qui me semble assez primordiale pour parvenir à s'aimer soi-même, c'est accepter de renoncer au désir d'être aimé de tous. Passer au-delà de cette envie de vouloir plaire, de vouloir être aimé par tout le monde.
Oui, mais bien sûr, c'est vrai que le regard des autres compte souvent beaucoup.
C'est vrai. Souvent, quelqu'un qui ne s'aime pas va être dépendant de l'image que les autres lui renvoient. Or, cette image, c'est une fausse image. C'est chaque personne va réagir à l'autre avec sa sensibilité, son histoire, ses blessures, et en fait va renvoyer une image différente. Par exemple, l'autre jour, j'avais un jeune enfant près de moi qui m'a dit « tu es vieille ». Alors, il a 7 ans, j'en ai 56. Pour lui, je suis vieille. Mais pour ma mère, qui elle en a 85, t'imagines bien que pour elle, je suis jeune. L'important dans tout ça, c'est la façon, c'est le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai découvert justement sur tout ça, j'ai vraiment l'impression de commencer une nouvelle vie. Alors, c'est pas réellement me sentir jeune, mais me sentir nouvelle. C'est encore autre chose. Hein. J'apprends à m'aimer avec l'âge qui est le mien. L'autre jour, j'ai fait une fabuleuse randonnée, 21 kilomètres, j'étais très très fière de moi, et je me suis dit, voilà, je peux faire ça, bravo Florence, quoi. C'était magique, il y avait des paysages extraordinaires, et ce qui était important, c'était vraiment la façon dont moi, je me sentais. Peut-être que par rapport à quelqu'un qui fait des randonnées tout le temps, ce que j'ai fait n'avait rien d'extraordinaire, c'était par rapport à moi. Moi, ça me rendait heureuse, et je savourais ce bonheur. Voilà, moi par rapport à moi-même.
D'accord, donc la première clé, renoncer au désir d'être aimé de tous. Effectivement, c'est quelque chose de puissant. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme clé à nous proposer?
Alors, une seconde aussi qui me semble importante, et je viens d'en parler justement, c'est d'apprendre à se féliciter et à se dire des choses positives. Cette petite voix dans la tête dont je parlais tout à l'heure, elle a tendance à nous dire tout le temps des choses pas très agréables. Or, on le sait, les éducateurs le disent, hein, on n'obtient pas meilleurs résultats sur le long terme qu'avec l'éducation positive. On est souvent plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Et ça, ça correspond au message qu'on a ramené de notre enfance. Alors, je suis pas là pour critiquer les personnes qui nous ont éduquées, hein, mais c'est le ressenti de l'enfant qu'on était. Hein. On s'est parfois senti critiqué, rejeté, alors qu'on ne l'était pas. Hein. Ça, c'est pas nécessairement la réalité, mais on l'a ressenti. Et parce qu'on l'a ressenti, on a tendance à répéter ces messages une fois à l'âge adulte. On prend le relais. Alors, moi, la petite phrase poison que j'ai ramenée de mon enfance et que je me suis dit pendant de longues années, je ne me la dis plus maintenant, c'est « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Alors, c'était une phrase que me disaient mes parents. Hein. Je pense qu'ils ne voyaient pas la portée de ce qu'ils disaient, hein, et qu'ils voulaient très très certainement que je sois encore meilleure pour qu'il m'arrive que des choses bien dans la vie. Mais par la suite, quand je réussissais quelque chose dans ma vie d'adulte, je me disais, bon, c'était sûrement très facile, j'ai rien fait d'extraordinaire, etc. Alors, changer ces petites phrases comme ça, c'est extrêmement important. Prendre conscience et les changer, ça va permettre de changer le regard aussi qu'on a sur soi-même. Hein. Et j'ai envie de te proposer, Marie, ce petit exercice hein, et nos auditeurs aussi hein, qui nous écoutent, de chercher la petite phrase poison qu'on peut avoir ramenée de notre enfance. Alors ça peut être « tu n'y arriveras pas ». J'avais une cliente l'autre jour qui avait ramené le « fais attention ». On en avait ri parce que le « fais attention » de ses parents, c'était très certainement pas pour l'empêcher de vivre bien sa vie. C'était au contraire plein d'amour pour elle, mais elle, enfant, elle l'a ressenti comme t'es pas vraiment capable, quoi. Tu méfie-toi, t'es fragile. Et ça peut être bon, d'autres phrases. Est-ce que toi, il y en a une qui te vient à l'esprit, Marianne, ta petite phrase poison à toi que t'aurais ramenée?
Ben, la phrase qui me vient, je crois que c'est pas forcément quelque chose que j'entendais, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, mais c'est quelque chose que moi, j'ai conclu de l'exemple que je voyais auprès de mes parents. Et c'était à propos de l'efficacité qu'il faut toujours en faire plus. Ouais. C'est pas assez, c'est bien, tout à fait, mais allez, hop, suivant, on passe à la suite. Ça oublie complètement ce que tu disais, cette célébration, le fait de s'arrêter, de se féliciter. Non, on a fait quelque chose de bien, c'est normal, allez, au suivant, on continue, on va vers l'avant, et efficace.
Ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Maria, parce qu'effectivement ces petites phrases poison qu'on ramène de notre enfance, c'est pas nécessairement des phrases qui ont été prononcées. Ce sont des choses avec lesquelles on a vécu comme
une
vérité. Voilà. Mais d'avoir vu nos parents et d'avoir traduit du haut du fait qu'on était des enfants. On a été obligé de traduire ce qu'on voyait pour leur donner une cohérence, etc. Et on peut avoir ramené des choses qui n'étaient pas nécessairement ce que nos parents voulaient faire passer, mais bon. Alors, cette phrase, moi je te propose, et vous qui écoutez, faites-en autant, si vous avez trouvé votre petite phrase de poison, de la transformer en positif, de la transformer en une phrase inspirante, quelque chose qui, waouh, ça me fait du bien. Pour te donner un exemple, moi, donc pour remplacer ma phrase poison, quelque chose qui m'a fait un bien, mais merveilleux, je me la répétais comme un mantra au début, je suis moi et moi c'est bien. Wow. Alors, au début, c'était extrêmement difficile à dire, hein. Mais j'y suis arrivée de mieux en mieux et cette phrase, elle m'a nourrie et tout doucement, elle a remplacé la phrase que j'avais ramenée. Tout doucement, elle a pris toute la place et je suis moi et moi c'est bien. Et encore aujourd'hui, quand j'ai un petit accès de manque de confiance en moi, je me dis oh, je suis moi et moi c'est bien. Voilà. Alors toi, Maria, ta phrase, est-ce que tu as une idée d'une autre phrase qui pourrait la remplacer? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient?
Oui, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit de faire une pause et prendre soin de moi.
Ouais. Est-ce qu'elle te fait vibrer cette phrase quand tu l'as dit? J'ai le droit de m'arrêter, de prendre soin de moi. Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur?
Ben, elle continue à me faire un peu peur.
Oui, tout à fait. C'est pas facile. Et on a l'impression qu'elle est un peu fausse, en fait, au départ.
Hein. Oui, c'est un peu n'importe quoi.
Ouais. Alors,
tout de suite. Mais tu peux bien y croire.
Oui. Eh bien, tu peux te la répéter plusieurs fois par jour. Hein. Tu peux te la répéter quand tu te sens bien. Hein. Un petit clin d'œil, là. Et aussi quand tu te sens moins bien. Hein. Et surtout, surtout, quand ta phrase initiale repointe le bout de son nez. Hein. Tout de suite, mets un stop. Moi, je visualise carrément le feu rouge, là. Et je dis, non, celle-là, j'en veux pas. Je remplace. Voilà. Hein, la remplacer dans sa tête. On peut la dire à haute voix, on peut la chanter, on peut... Il s'agit, Maria, là, d'un exercice extrêmement puissant, hein, qui nous permet de changer une vibration profonde qui est en nous. Hein. Et j'ai parce que ça me semble vraiment important, parce que ça a réellement changé ma vie. Hein. J'ai réalisé un bonus de EFT avec des affirmations positives sur l'amour de soi.
Hmm. Oui, un bonus que les gens vont recevoir en cadeau s'ils choisissent d'acheter le pack des enregistrements du congrès. D'accord, alors moi tu m'as entièrement convaincue de l'importance de s'aimer.
Super.
Et j'espère que c'est le cas pour nous.
Oui, moi aussi.
Les idées sont vraiment intéressantes. Bon, on en avait déjà entendu parler sûrement, mais c'est un petit rappel qui fait du bien. Alors, comment faire quand on a passé toute une vie à se trouver sans intérêt, à accumuler des critiques, des ressentiments à son égard?
Eh bien, écoute, on y est. Hein. C'est là où l'EFT va constituer vraiment la technique de choix, à la fois facile à mettre en œuvre, et au niveau du temps, au niveau de l'énergie, hein, dans le quotidien, et qui va nous permettre de surmonter toute cette critique qu'on a vis-à-vis de soi. Eh bien, déjà la phrase de démarrage hein, sur le point karaté, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Alors là, celle-là, elle est fabuleuse.
Oui, tout est dit là, en fait.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et c'est vrai que souvent, quand on débute avec l'EFT, on passe pas trop cette phrase-là. Hein.
Non.
On l'a vu dans beaucoup de conférences, souvent on est obligé de la transformer un peu, de dire que j'envisage la possibilité de peut-être m'aimer un jour. Ouais, là, d'accord, je peux la dire.
Ouais. C'est vrai qu'elle apporte souvent beaucoup d'émotions, hein, la personne qui la prononce pour la première fois. Et bah, elle est comme trop forte, hein, on est obligé de l'adoucir et on va dire d'autres choses. Je m'ouvre à la possibilité de m'accepter, voilà, c'est plus supportable. Et cette phrase, elle permet de se réconcilier avec soi-même. De dire, ben oui, j'ai un problème, oui, je ne suis pas parfait. En fait, c'est une reconnaissance de ce que l'on est. Et en même temps, voilà, je suis comme ça et je peux m'accepter. C'est vraiment le premier pas vers l'amour de soi. Une réconciliation.
Alors, d'accord. Alors, effectivement, l'EFT permet de se réconcilier avec soi-même. Pas seulement à travers cette phrase, hein, parce que ça va plus loin que ça. C'est déjà un grand pas d'arriver à prononcer cette phrase et à y croire, mais est-ce que ça suffit?
Alors, c'est effectivement un grand pas, mais alors avec l'EFT, ça ne va pas être le seul, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. On va pouvoir également supprimer, dissoudre hein, l'émotion négative qui peut être liée à un souvenir. Donc, nos souvenirs... grâce à l'EFT, vont pouvoir devenir presque neutres, presque ou complètement. Or, nos émotions, on le sait, ça constitue le point d'attraction dans notre vie. Donc, en supprimant les émotions négatives qui sont rattachées aux souvenirs de dévalorisation, etc., de l'enfance, bien, on ouvre la porte tout grand à l'amour de soi.
Oui, bien sûr, parce que ces phrases poison, comme tu dis, ces croyances négatives sont là pour une bonne raison. À un moment donné, ça a été nos mécanismes de survie.
Absolument, absolument. Et se battre contre eux, c'est pas nécessairement la bonne solution. Avec l'EFT, c'est cette notion de réconciliation que je trouve fabuleuse, c'est que on remercie toutes ces croyances qu'on a eues pendant des années qui nous ont permis effectivement de survivre, on va tout doucement, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de patience, les transformer, leur permettre d'évoluer dans le sens qu'on désire, en fait, tout simplement.
Mmh. Et ce que je tiens à souligner aussi, c'est que effectivement, on va transformer l'émotion négative liée à un souvenir, mais en revanche, nous n'allons pas du tout supprimer le souvenir. Il ne s'agit pas d'oublier, mais juste enlever cette charge.
Voilà, absolument. Pouvoir relire sa vie sans avoir d'émotions qui nous submergent et qui nous font du mal, quoi.
Oui.
Et relire sa vie avec amour, quoi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mm-hmm. Pouvoir revenir dans le passé sur des choses qui étaient peut-être même parfois traumatisantes et pouvoir les relire. Je dis les relire parce que c'est exactement ça, quoi. C'est une nouvelle lecture. C'est comme si on gardait les images, mais que l'écriture était différente d'un
seul
coup.
Oui. On va changer la légende.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Florence ?
Oh, bah oui, j'en ai plein. Il y en a un qui me revient. C'est quand j'étais enfant, mes parents étaient partis se promener et j'étais restée seule à la maison. Et j'avais décidé de faire des tartelettes au citron. Voilà. D'une part, je les adorais, et d'autre part, ma mère les faisait très bien, et j'avais envie de lui montrer que moi aussi, j'étais capable. Alors, j'ai réalisé ma recette avec soin. Quand tout a été fini, j'ai rangé, j'ai nettoyé la cuisine. Et tu vois, rien que de t'en parler, je me souviens encore de l'odeur qui émanait. Mes jolies petites tartes, elles étaient jolies, dorées. Je les avais réussi parfaitement, puis j'étais quand même très, très fière de moi. Et quand mes parents sont rentrés, ma mère a regardé ça et a dit « Bon, c'est pas toi, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui t'a aidé. » Et cette réaction de ma mère s'est restée très, très longtemps comme une blessure. Hein. Voilà, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être niée quand je réussissais quelque chose. Hein. Et aujourd'hui, eh ben, tu vois, je te parle de ce souvenir-là avec de la tendresse pour ma mère. Oui, oui, tout à fait.
Tu es passé de la blessure à la tendresse. Explique-moi ça.
Oui. Ben, autrefois, j'avais pris ça comme du mépris de ce que j'étais. Hein. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ma mère a toujours essayé d'être parfaite, d'être meilleure que les autres. Elle s'aimait pas. On y revient, tu vois.
Oui.
Et elle avait besoin de la reconnaissance des autres pour exister. Hein. Voilà, le manque d'estime de soi, voilà, les ravages que ça peut faire, c'est que ma mère, elle m'aimait, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Mais elle avait tellement ce désamour d'elle-même que ça s'exprimait même dans ses gestes d'amour, quoi. Voilà. Et ça a longtemps été un traumatisme, alors que aujourd'hui, je me rends compte à quel point elle était malheureuse et elle n'avait même pas conscience de ce qu'elle faisait, quoi. Hein. Et nos comportements, quand ils sont inadaptés comme ça, c'est parce qu'ils reflètent la souffrance qui est en nous. Hein. Et aujourd'hui, ce changement complet de vision, eh ben, c'est grâce à l'EFT. Voilà. L'EFT, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'affranchir du regard de l'autre. Voilà, mes tartelettes au citron, eh ben, elles étaient très belles. Je les avais très bien réussies et c'était ça qui était important. Je l'avais fait pour moi, je l'avais fait, j'avais envie de le partager et voilà. Mon attente d'enfant était légitime, mais aujourd'hui adulte, ben voilà, bravo Florence, tes tartelettes, elles sont super. Et par-dessus le marché, ils ont sûrement mangé mes tartelettes avec beaucoup de bonheur, mes parents. Et tu vois, j'ai oublié ça parce que j'étais dans la blessure que j'avais reçue à l'époque. Tu vois ?
Oui, tu pouvais pas le voir.
Eh non.
Dans cet état-là. Ouais. Donc si je résume, l'EFT nous permet à la fois de nous accepter tels que nous sommes, et même peut-être aller jusqu'à nous aimer,
ouais.
Et en même temps de soulager les émotions négatives, des blessures, principalement de l'enfance, mais pas seulement.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Imagine un petit peu que tu ne te fasses plus jamais de reproches et que tu aies le pouvoir sur toutes tes émotions de peur, de tristesse, de culpabilité, de colère, que tout ça soit quelque chose de zen. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait assez fabuleux.
Oui, ça relève un peu de la science-fiction, mais
De moins en moins,
effectivement.
de moins en moins depuis
Oui,
qu'on se connaît.
on y travaille tous les jours. C'est un travail de toute une vie, n'est-ce pas?
Ouais, tout à fait.
Oui.
Voilà, et l'EFT, c'est vraiment un outil magique pour aboutir à une relation idéale avec nous-mêmes et profiter du moment présent. Ça nous permet, voilà, d'être en toute conscience, de profiter sans avoir des parasites. Dans notre tête qui viennent gâcher, hein, et profiter du moment présent, c'est vraiment un beau cadeau d'amour à nous faire, hein, et je crois qu'Eckhart Tolle serait d'accord avec nous.
Alors, concrètement, comment conseilles-tu d'utiliser l'EFT dans ce but précis d'apprendre à s'aimer davantage?
Alors, pratiquer l'EFT, c'est une chose assez fabuleuse. Moi, je recommande de l'utiliser devant un miroir. Le miroir, alors ça, c'est un travail que nous conseille Louise L.A., hein. Le miroir nous permet d'être, non pas l'EFT, mais le fait de se regarder dans le miroir, hein, ça nous permet d'être connectés à nous-mêmes. Souvent, tous autant qu'on est, hein, les femmes, on utilise le miroir pour se maquiller, les hommes pour se raser, mais en définitive, on ne se regarde pas vraiment dans les yeux. Et en se tapotant et en se regardant dans les yeux, il va se passer vraiment des choses fabuleuses. Hein. On ne s'évite plus, on se parle tout simplement, on se parle à soi. Les yeux dans les yeux, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'extrêmement puissant.
D'accord. Et qu'est-ce que tu dis quand tu te parles, alors?
Alors, quand je me parle et que je me tapote en même temps, je me dis tout simplement ce que je ressens, hein. Par exemple, si je suis en colère, je peux exprimer ma colère à la personne qui m'a mise en colère, hein. Je m'autorise à lui dire, mais tu sais, je suis très en colère après toi parce que voilà, ou encore je me sens blessée par ce que tu as fait, ou parfois même j'ai peur. Quand tu fais ça, ça me fait peur, quoi. On peut parler à la personne, on peut lui exprimer simplement comment on souffre, pourquoi on souffre. C'est une façon de reconnaître sa colère, et l'exprimer, c'est vraiment une forme de respect de soi. Grâce à l'EFT, alors on peut parler à une personne, on peut aussi se parler à soi-même, hein, des fois. Quand on a un peu de culpabilité, bah voilà, on peut aussi se dire à soi-même, bah, je t'en veux, parce que voilà, t'étais pas très à la hauteur à ce moment-là. Mais bon, tout ça en tapotant, ça va vraiment permettre à l'émotion négative de se dissoudre, hein, et ça va nous permettre de passer à autre chose, parfois même très rapidement. Hein. Des fois, il suffit deux, trois phrases et hop. Bon, ça y est, c'est tout, on passe à autre chose. Hein. Et on n'est plus submergé par l'émotion. Ça, c'est la force de l'EFT.
D'accord. Et qu'est-ce que tu donnes comme explication pour ça?
Qu'est-ce que tu veux dire par explication?
Comment expliquer cette transformation? Qu'est-ce qui se passe quand on se parle comme ça devant la glace?
Ben, quand on se parle comme ça devant la glace, on se donne le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Très souvent, on ne se donne pas ce droit-là. Et le fait de l'exprimer et de se voir le faire, ça permet vraiment cette réconciliation. Moi, j'insiste beaucoup sur ce mot-là parce que on parlait tout à l'heure de la dépression, c'est vraiment refuser de se pardonner. Et en se parlant, on va arriver à un autre niveau par rapport à soi-même, à une autre dimension. Et peut-être cet enfant intérieur, mais je ne saurais pas trop te dire, mais quelque chose qui est à un autre niveau que simplement, simplement parler. On est vraiment sur de l'énergétique avec l'EFT, on est sur cette reconnaissance avec soi. Hein. Les émotions vont doucement se dissoudre et on va pouvoir passer à autre chose. Et là, parce qu'on est dans le miroir, avec le miroir, et qu'on peut se parler à soi-même, on va engranger du positif. Donc, une fois qu'on a réussi à dissoudre les émotions négatives, on va pouvoir passer à des phrases positives et se dire « je t'aime » en se regardant dans le miroir. Waouh ! C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on réécrit quelque chose de nouveau dans notre système énergétique, on réécrit quelque chose de positif, hein, et on va aller se connecter à toute notre puissance intérieure. Hein. Même si on n'y croit pas totalement au début, parce que c'est vrai que ça paraît un peu fictif, mais alors je peux vous assurer que quand on le fait régulièrement, c'est de plus en plus facile, il y a de moins en moins de résistance. Hein. Et prononcer cette phrase devant la glace, c'est au départ permettre à la petite voix de dire « c'est pas vrai, tu t'aimes pas, t'as vu ta tête, etc. » et tout doucement glisser vers autre chose, glisser vers l'amour de soi, enlever les blocages, hein, et il se passe des choses extraordinaires. Enfin bon, moi je sais que je pratique ça maintenant depuis plusieurs années. Et réellement, il y a des transformations extrêmement rapides du regard que l'on pose sur soi. Parce que ce regard dans le miroir, eh bien, il va nous permettre de changer le regard qu'on a à l'intérieur de soi. Mmh. On inscrit des choses dans le subconscient.
Florence, oui. Toi qui es coach de la loi d'attraction,
oui.
Est-ce que ce n'est pas un peu aberrant de répéter ces phrases négatives? Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau des vibrations?
Alors non, pas du tout, parce que justement là, on est au niveau de l'EFT. C'est vrai que c'est souvent un problème pour les gens qui commencent l'EFT de dire, mais dire des phrases négatives, est-ce que ça va pas ancrer le négatif? Alors pas du tout. C'est vraiment reconnaître ce qu'on ressent, c'est accepter qui on est. Et on a ces émotions négatives, elles font partie de nous. Hein. Elles existent, ça sert à rien de les nier. Quand je suis très triste, me répéter d'emblée je suis très gaie, c'est un peu difficile. Par contre, dire je suis triste, ben oui, je reconnais que je suis triste. Mais en tapotant, je travaille sur cette tristesse. Mmh. Et on l'a bien vu. Bon, quand on évalue avant une séance EFT et après une séance EFT, ben l'émotion, elle se dissout. Et après, je peux passer à du positif. On va pouvoir, en enlevant le négatif, on va inscrire, on va laisser une place pour mettre du positif à la place. Et voilà, les affirmations positives vont venir s'inscrire dans notre subconscient. On va pas aller les plaquer, mais voilà, avec l'EFT, on dissout le négatif et on peut permettre au positif de prendre une place qui est la bonne place. Quoi.
Mmh. D'accord, oui, je t'ai posé la question, je connaissais la réponse, mais c'est vrai que beaucoup de personnes me posent cette question aussi. Donc, comme tu as cette spécialité avec la loi d'attraction, c'était le moment. Alors, je crois que tu nous as préparé un protocole, justement, pour apprendre à s'aimer. Il nous reste quelques minutes, est-ce qu'on peut faire ces quelques rondes ensemble?
Eh bien, écoute, avec grand, grand plaisir. Tu m'accompagnes, on répète ensemble?
Bien sûr.
Alors, on commence par le point karaté. Même si je n'arrive pas à m'aimer, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait d'abord aimer les autres.
Même si je n'arrive pas à m'aimer, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait d'abord et surtout aimer les autres.
Eh bien, je me félicite d'être fidèle à mon passé.
Je me félicite d'être fidèle à mon passé.
On change de main, même si l'idée même de m'aimer me semble parfaitement incongrue.
Même si l'idée même de m'aimer me semble parfaitement incongrue.
Je respecte totalement ma décision de ne pas m'aimer.
Je respecte totalement ma décision de ne pas m'aimer.
Et on revient à la première main. Même si je me vois toujours avec le regard critique des gens qui faisaient autorité pour moi quand j'étais enfant.
même si je me vois toujours avec le regard critique des gens qui faisaient autorité pour moi quand j'étais enfant.
Je choisis de m'ouvrir à la possibilité d'avoir un peu de tendresse pour moi.
Je choisis de m'ouvrir à la possibilité d'avoir un peu de tendresse pour moi.
Sur le dessus de la tête, il paraît qu'il faut s'aimer.
Il paraît qu'il faut s'aimer.
Début des sourcils. Comment fait-on pour s'aimer ?
Comment fait-on pour s'aimer ?
Au coin des yeux. Et puis, on m'a toujours dit que c'était mal de s'aimer.
Et puis, on m'a toujours dit que c'était mal de s'aimer.
Sous les yeux. De toute façon, je n'ai rien d'aimable.
De toute façon, moi, je n'ai rien d'aimable.
Sous le nez. J'ai plein de défauts.
J'ai plein de défauts.
Menton. J'ai plein de raisons pour ne pas m'aimer.
J'ai plein de raisons de ne pas m'aimer.
Clavicule. Vous voulez la liste ? Oh, elle est bien trop longue.
Vous voulez la liste ? Non, elle est bien trop longue.
Sous les bras. J'ai bien raison de me critiquer.
J'ai bien des raisons de me critiquer.
Et sous les seins. J'ai de très bonnes raisons de m'en vouloir.
J'ai de très bonnes raisons de m'en vouloir.
Dessus de la tête. Non, décidément, je n'ai rien d'aimable.
Non, décidément, je n'ai rien d'aimable.
Début des sourcils. J'ai gâché plein de choses dans ma vie à cause de mes défauts.
J'ai gâché plein de choses dans ma vie à cause de mes défauts.
Au coin des yeux. J'ai subi des abandons, des rejets.
J'ai subi des abandons, des rejets.
Sous les yeux. C'est la preuve que je ne suis pas aimable.
C'est la preuve que je ne suis pas aimable.
Sous le nez. Je me souviens des punitions quand je n'étais pas sage.
Je me souviens des punitions quand je n'étais pas sage.
Menton. Et pourtant, je sens qu'il y a aussi plein de bonnes choses en moi.
Et pourtant, je sens qu'il y a aussi plein de bonnes choses en moi.
Clavicule. Ah, si j'étais meilleure.
Ah, si seulement j'étais meilleure.
Sous les bras. Autrefois, c'était le regard des autres qui me faisait mal.
Autrefois, c'était le regard des autres qui me faisait mal.
Sous les seins. Et aujourd'hui, j'ai pris le relais. Je suis mon pire juge.
Et aujourd'hui, j'ai pris le relais. Je suis mon pire juge.
Dessus de la tête, toutes ces critiques que je me fais.
Toutes ces critiques que je me fais.
Début des sourcils, ce manque d'amour de moi.
Ce manque d'amour de moi.
Coin des yeux, je croyais qu'il fallait faire comme cela.
Je croyais qu'il fallait faire comme cela.
Sous les yeux, est-ce que je peux faire autrement ?
Est-ce que je peux faire autrement ?
Sous le nez, je ne sais même pas comment faire.
Je ne sais même pas comment faire.
Menton, j'ai l'impression d'être en faute.
J'ai l'impression d'être en faute.
Clavicule, et si c'était possible de s'aimer ?
Et si c'était possible de s'aimer ?
Sous les bras, ce tapping serait-il en train de m'y aider ?
Ce tapping serait-il en train de m'y aider ?
Sous les seins, avoir de l'amour pour moi. C'est vrai que ça me fait envie.
Avoir de l'amour pour moi, oui, c'est vrai que ça me fait envie.
Alors, je propose de prendre une grande respiration et peut-être de boire un peu d'eau pour les personnes qui ont de l'eau près d'elles. Mm-hmm. On continue ?
Mm-hmm.
Allez, point karaté. Même si je ne sais pas vraiment qui je suis ni comment faire pour m'aimer,
même si je ne sais pas vraiment qui je suis, ni
comment faire pour m'aimer,
je
choisis de laisser ces peines se dissoudre.
Je choisis de laisser ces peines se dissoudre.
Et m'ouvrir à une autre façon de vivre avec moi.
Et de m'ouvrir à une autre façon de vivre avec moi.
Et on change de main, même si ça me semble encore bien difficile de m'aimer.
Même si ça me semble encore bien difficile de m'aimer.
Je choisis de m'ouvrir à la possibilité d'être un jour mon meilleur ami.
Je choisis de m'ouvrir à la possibilité d'être un jour ma meilleure amie.
Et on revient à la première main. Même si je m'en veux de m'être fait autant de mal.
Même si je m'en veux de m'être fait autant de mal.
Je choisis de me féliciter pour mon envie de changer et mon courage aujourd'hui.
Je choisis de me féliciter pour mon envie de changer et pour mon courage aujourd'hui.
dessus de la tête. Ce manque d'estime de moi.
Ce manque d'estime de moi.
Début des sourcils. Toute cette autocritique.
Toute cette autocritique.
Coin des yeux. Je croyais bien faire.
Je croyais bien faire.
Sous les yeux. Et j'y ai mis de l'énergie.
Et j'y ai mis de l'énergie.
Sous le nez. Je me suis trompée.
Je me suis trompée.
Menton. J'ai peur de ne pas savoir.
J'ai peur de ne pas savoir.
Clavicule. On ne m'a pas appris.
On ne m'a pas appris.
Sous les bras. Et si c'était plus facile que je ne le crois?
Et si c'était plus facile que je ne le crois?
Sous les seins. Je choisis de me faire confiance. La preuve, j'ai déjà commencé.
Je choisis de me faire confiance. La preuve, j'ai déjà commencé.
Dessus de la tête. Je choisis de m'apprécier.
Je choisis de m'apprécier.
Début des sourcils. Et je me félicite pour ce tapping qui dissout mes souffrances.
Et je me félicite pour ce tapping qui dissout mes souffrances.
Coin des yeux. Je choisis de reconnaître mes qualités et de les apprécier.
Je choisis de reconnaître mes qualités et de les apprécier.
Sous les yeux. C'est du courage que de vouloir changer.
C'est du courage que de vouloir changer.
Sous le nez. Voilà, je commence. Je suis courageuse.
Voilà, je commence. Je suis courageuse.
Creux du menton. Oui, je suis courageuse.
Ah oui, je suis courageuse.
Clavicule. Jusqu'à aujourd'hui, je croyais l'inverse.
Jusqu'à aujourd'hui, je croyais l'inverse.
Sous les bras. Il s'agit d'un jour nouveau, d'un regard neuf que je porte sur moi.
Il s'agit d'un jour nouveau, d'un regard neuf que je porte sur moi.
Sous les seins. Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer.
Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer.
Dessus tête. Je choisis de me libérer de mon propre jugement et de celui des autres.
Je choisis de me libérer de mon propre jugement et de celui des autres.
Début des sourcils. Je choisis d'aimer l'enfant en moi qui a tant besoin d'amour.
Je choisis d'aimer l'enfant en moi qui a tant besoin d'amour.
Coin des yeux. Je choisis de prendre en main ma destinée.
Je choisis de prendre en main ma destinée.
Sous les yeux. Je choisis de me rappeler que je suis puissante.
Je choisis de me rappeler que je suis puissante.
Sous le nez. Je choisis de surveiller mon bien-être.
Je choisis de surveiller mon bien-être.
Menton. Je choisis de rechercher la joie dans ma vie.
Je choisis de rechercher la joie dans ma vie.
Clavicule. Je choisis de me centrer sur le moment présent.
Je choisis de me centrer sur le moment présent.
Sous les bras, je choisis de lâcher prise.
Je choisis de lâcher prise.
Sous les seins, je choisis d'attirer la joie dans ma vie.
Je choisis d'attirer la joie dans ma vie.
Une grande respiration. Et on peut boire un peu d'eau. Voilà, Maria.
Merci.
Un petit protocole d'amour de soi.
Oui, pas si petit. Merci. Merci beaucoup Florence pour toutes ces clés que tu as partagées et pour ce beau protocole. Et si vous voulez en savoir plus sur les programmes de Florence et la contacter, vous pouvez aller sur son site eftetlois-d'attraction.com.
Eh ben merci à toi en tous les cas Maria pour ce congrès qui permet justement de voilà de communiquer, de partager toutes ces choses qui comptent autant pour nous. C'est super.
Alors, nous allons ouvrir le chat et vous allez pouvoir poser les questions à Florence qui se prépare à y répondre dans quelques instants.